mes chers collègues, on me dit qu'il est 18h. Symboliquement, même en dématérialisant, je vous propose de sonner la cloche qui symbolise le conseil municipal de Tournefeuille. Nous aurons tous comme ça une pensée, on va dire, matérielle et l'image de notre salle du conseil municipal dans laquelle nous avons plaisir à nous réunir et à délibérer. Alors, vous dire qu'effectivement, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Notre conseil municipal, le dernier, était le 19 décembre. Nous n'avions pas imaginé à ce moment-là nous retrouver sous cette forme, chacun en tête l'enchaînement des événements. J'espère que nous nous retrouvons toutes et tous en bonne santé et que chacun a traversé cette période, je dirais, de la meilleure façon. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher pour vous et vos proches. Une pensée pour Alain Carré, parce que parmi nous, certains ont souffert de ce virus du Covid-19. Alain Carré a été particulièrement touché. Vous le savez ou pas, en tout cas, je souhaite, en début de ce conseil municipal, lui envoyer un salut très amical au nom de toutes et tous. Et puis, saluer à travers vous l'ensemble des familles qui aussi ont eu cette période du Covid-19, cette crise particulièrement difficile et certains qui ont perdu de leurs proches. Vous donner quelques précautions d'usage de cette séance dématérialisée. Alors, il se trouve que nous avons beaucoup progressé les uns et les autres sur l'utilisation des outils de visioconférence, multiples et variés. Nous allons, si la technique le permet, garder les caméras ouvertes pour solliciter la prise de parole dans un premier temps et faire un vote à main levée, d'une part, si le réseau nous le permet. En revanche, nous n'ouvrirons les micros que pour prendre la parole et éviter effectivement de faire en sorte que cette réunion se déroule bien. Je viens de l'indiquer, le vote se fera à main levée et je nommerai effectivement le vote pour qu'il soit enregistré. Vous le savez, nous l'avons évoqué, nous faisons cette séance du conseil municipal à huis clos avec les moyens qui sont les nôtres, avec l'engagement de publier dès demain matin l'intégralité de l'enregistrement de notre séance. Donc prenez-le en compte dans vos interventions, l'intégralité de vos interventions sera diffusée sur le site de la ville dès demain. Peut-être j'ai dit demain matin, en tout cas dès demain. Pour cela, je remercie nos informaticiens. Nous avons avec nous en ligne, si je puis dire, ou dans la salle virtuelle de cette réunion, Jean-Luc Simon et Johan Bézille, qui nous assistent sur le plan de la technique. Nous avons bien entendu dans la salle, à notre habitude, les élus sont accompagnés de Jean-Claude Longeau, directeur général des services, Daniel Echenne qui est aussi son assistante, que chacun voit dans le petit coin à droite de la salle. Donc, ils sont présents, je tiens à vous l'indiquer, comme sont présents et m'assistent Thierry Graal et Elsa Isidore du cabinet pour m'assister dans cette session. Voilà. Alors, je vous propose que Hélène Desmaîtres procède à l'appel nominal, ce qui va nous permettre, comment dire, de nous mettre en route, c'est-à-dire d'allumer le micro pour répondre présent. Et ensuite, nous aurons une première étape, je dirais, d'information et d'échange sur la gestion de cette crise du Covid et du plan de reprise d'activité de nos services avant de, je dirais, en liminaire. Et ensuite, nous avons 14 délibérations à instruire et à approuver. Je donne la parole à Hélène Desmaître pour procéder à l'appel nominal.
Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous. Dominique Fouchier.
Présent.
Hélène Desmaître, présente. Bernard Mensoussan. Il ne répond pas présent pour voir. Pourtant, je vois la vidéo. J'attends qu'il me réponde présent. Je continue. Françoise Andagneux.
Présente.
Gilbert Quéré.
Présent.
Isabelle Méfrin.
Présente.
Muriel Thomas.
Présente.
Corinne Curval.
Présente.
Frédéric Parre.
Présent.
Michel Soriano.
Présente.
Claude Reynal, absent, pouvoir donner à Dominique Fouchier. Dany Buys.
Présente.
Alain Carré, absent, pouvoir donner à Hélène Desmaître. Daniel Fourmi. Daniel Fourmi ne répond pas.
Présent.
Il est présent.
Vous entendez là, présent.
Merci. Mireille Abal.
Présente.
Olivier Lambeau.
Présent.
Jacques Tomasi.
Présent.
Stéphanie Rallès.
Présente.
Philippe Moina.
Présent.
François Gaudy.
Présent.
Nicole Rapon.
Présente.
Nadia Elal. Nadia Elal.
Présente. Présente.
Jean-Pascal Guillemet.
Présent.
Patrick Chartier.
Présent.
Pierre Dufour.
Présent.
Anissa Saïdani. Anissa Saïdani. Non. Laurent Verbiguier.
Elle est au micro.
Anissa.
Oui, présente. Ça marche.
Laurent Verbiguier.
Présent.
Patrick Bessel.
Présent.
Alain Perriot. Alain Perriot. Monsieur Bessel, vous ne savez pas s'il est absent, s'il a...
Il doit être absent.
D'accord. Patrick Bénon.
Absent.
Michel Pélisson.
Présente.
Françoise Viadjet. Elle est absente aussi, Françoise?
Apparemment, oui.
Jean-Pierre Morgadès.
Il était là, tout à l'heure.
Noémia, oui, je vous ai vu, Monsieur Morgadès, je vous entends. Noémia Aubry.
Présente.
Christine Lancio.
Oh, je crois qu'elle n'est pas là.
Elle est absente, je la note absente. Donc, absent Alain Perriot, Patrick Bénon, Françoise Viadjet et Christine Lancio, pour qui je n'ai pas de pouvoir. J'ai un pouvoir pour Monsieur Reynal, pour Monsieur Carré. Merci.
Merci Hélène pour cet appel nominal historique.
Oui.
À notre connaissance, effectivement, comme dans beaucoup de communes, le conseil municipal ne s'est jamais déroulé de façon dématérialisée. Alors, comme je vous l'indiquais lors de mon propos d'accueil, je vous propose un temps d'information et d'échange sur la gestion de cette crise du Covid-19 et sur l'organisation du plan de reprise des activités. Je vous propose d'en faire un exposé large et que un ou deux des adjoints puissent venir éclairer un ou deux sujets qui nous paraissent les plus conséquents. On refait pas l'histoire, mais simplement pour vous indiquer que le plan communal de sauvegarde était activé dès le 13 mars avec une première réunion de la commission de suivi de cette crise du Covid. Et l'un des premiers rôles de cette alors Alors, je vois pas, j'entends quelqu'un, je ne vois pas de main se lever. Oui.
Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des différences notables par rapport à l'exposé que vous avez fait la semaine dernière ?
Ben, la différence notable, c'est qu'on est en conseil municipal. Et donc,
on va avoir droit à la même chose.
Ben, c'est-à-dire que, comme vous avez eu le plaisir de m'entendre une fois sur ce sujet, aujourd'hui nous sommes en conseil municipal, qu'effectivement nous aurons un compte-rendu lors du procès-verbal de ce conseil municipal. Tout le monde n'était pas en commission plénière. Et donc, je me fais le plaisir de vous faire ce compte-rendu de façon suffisamment synthétique, néanmoins, monsieur Bessel, par rapport à l'ensemble des actions que nous avons eues à conduire durant cette crise. Mais c'est important que le conseil municipal ait d'abord une information complète et ensuite puisse réagir, puisse donner son avis. Alors, je m'apprêtais effectivement à faire une première partie de mon intervention sur la procédure de la gestion de cette crise, en vous rappelant l'activation du plan communal de sauvegarde et l'élaboration d'un plan de continuité d'activité des services. C'est effectivement très important et c'est à cela que nous nous sommes attachés dès le vendredi 13 mars. Les objectifs de ce plan communal de sauvegarde et de ce plan de continuité d'activité étaient bien entendu, face à une crise sanitaire, étaient bien entendu la protection des tournefeuillers face à ce virus. Le second objectif était de maintenir les services essentiels, les services vitaux de la collectivité. Le troisième sujet a été de soutenir la population dans cette épreuve. Et puisqu'il s'agit effectivement de services municipaux mis en œuvre par des agents, la question de leur santé est évidemment une de nos priorités. Donc, la protection de nos agents a été un de nos objectifs dans l'élaboration de ce plan de continuité d'activité. Les principes, je viens d'en fixer les objectifs, les principes autour de cette question de la santé. Au-delà de ça, la question du dialogue, c'est un ensemble de dispositions relatives à la gestion de cette crise que nous avons mis en œuvre avec un dialogue approfondi, à la fois avec les agents de la ville, dans le cadre de ce plan de continuité d'activité, mais aussi de la reprise. Le dialogue avec les parents d'élèves, les parents de crèche, avec les commerçants du marché. En tout état de cause, effectivement, compte tenu de la globalité de cette crise, nous avons beaucoup dialogué avec soit les usagers, soit les partenaires de nos services. Il est apparu que aussi la responsabilité de chacun était engagée, évidemment celle, je dirais, de l'autorité territoriale, du maire s'agissant des services municipaux, peut-être, mais à bien y regarder, la responsabilité des parents qui avaient choisi d'envoyer leurs enfants à l'école jeudi dernier était engagée aussi, celle des agents était engagée aussi. Et donc, nous avons placé la question de la responsabilité, évidemment, au cœur de nos décisions. Chacun a pu percevoir la difficulté d'envisager une issue ou une fin de crise. Certains d'entre vous sont rodés à la gestion de la crise. En général, on voit une fin de crise et un retour à la normale. Et on a vu très rapidement qu'on était dans une crise un peu particulière et qu'il fallait nous appuyer sur cette notion de progressivité. Progressivité dans les décisions, progressivité dans la reprise des activités. C'était un des fondements de la gestion de cette crise. Et puis, cette crise, nous le voyons, nous l'avons vu tout au long de ces deux mois, a été particulièrement anxiogène pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de tournefeuillers. Et donc, la question de la sérénité, la question de l'information pour faire en sorte que les choses soient bien comprises dans un environnement de communication et de médias où l'information était particulièrement confuse, eh bien, nous avons eu à cœur aussi de poser le principe de la sérénité, le principe de cette sérénité pour pallier ou en tout cas répondre à ce côté anxiogène de cette crise. Alors, ça, c'est le contexte et les principes avec lesquels nous avons géré cette crise. Nous avons été amenés à conduire un grand nombre d'activités, notamment, je l'évoquais, avec la mise en œuvre du plan de continuité d'activité, c'est-à-dire comment nos services pouvaient être, nos services vitaux pouvaient être maintenus dans un premier temps. J'en donnerai quelques exemples, et puis avoir à reprendre de façon progressive ultérieurement. Les services vitaux ont effectivement été maintenus, les résidences personnes âgées, les résidences autonomie ont été maintenues, la restauration a été maintenue, une école permettant d'accueillir les enfants des personnels mobilisés par la gestion de la crise a été maintenue. Nous avons développé là aussi avec nos services sous la direction de Jean-Claude Longeau, directeur général des services. Nous avons mis en place le plan de continuité d'activité avec beaucoup de réactivité, beaucoup d'agilité. Ce sont des situations difficiles parce que un certain nombre d'agents étaient confinés. Donc d'autres agents étaient mobilisés par la garde de leurs enfants puisque les écoles étaient fermées. Et donc nous avons fait au mieux et nous avons réussi à maintenir bon nombre de ces services vitaux. Nous avons développé à Tournefeuille, ça ne surprendra personne, beaucoup d'actions dans le champ de la solidarité. J'évoquais les 117 résidents de nos résidences autonomie, bien entendu. Nous avons encore développé le portage des repas à domicile pour un certain nombre de personnes qui se trouvaient en difficulté de façon plus importante. Nous avons mobilisé des bénévoles volontaires pour prendre la tâche des personnes de plus de 75 ans. Après avoir établi un contact avec elles, eh bien, nous sommes venus rendre des services, tout simplement, c'est-à-dire faire les courses, prendre les nouvelles, donner des informations, rassurer le cas échéant. C'est un élément, un mouvement de solidarité extrêmement important qui trouve un terreau propice, nous le disons régulièrement, à Tournefeuille. Mais en tout cas, nous pouvons être fiers de cette mobilisation des bénévoles, des volontaires. Le Centre communal d'action sociale, évidemment au cœur de cette mission de la solidarité, est venu délibérer pour une aide spécifique pour les familles dont les enfants prenaient leur repas à la restauration scolaire et se trouvaient à la maison. Et donc une difficulté financière, une difficulté économique de façon plus importante. La continuité pédagogique a été là aussi très à la hauteur de ce que nous savons faire à Tournefeuille, à la fois pour les enfants qui relèvent de la réussite éducative ou qui relèvent de l'accompagnement à la scolarité. Des enfants pour lesquels cette coupure pouvait être effectivement très importante. Et bien là aussi, la solidarité en matière de continuité éducative a joué pleinement son rôle. Nous avons là aussi pris à cœur de délivrer une information régulière aux Tournefeuillais. Je le disais, cette période a été anxiogène, la communication a été à la hauteur pour donner les informations sur ce qui se passait, rassurer dans un certain nombre de cas. Il faut remercier la presse en la matière qui a beaucoup relayé notre quotidien régional, La Dépêche et notre page tournefeuillaise, mais aussi France 3 est venue à Tournefeuille, Via Occitania est venue à Tournefeuille. Vous avez vu un peu de médiatisation sur ça dans l'intérêt avec l'objectif d'informer au mieux les Tournefeuillais. Nous avons été proches des commerçants. Nous avons travaillé avec eux sur des outils, des équipements pour les protéger et de faire en sorte que les commerces puissent rester ouverts. Nous avons travaillé, vous l'avez vu, sur le marché de plein vent avec une réorganisation, avec finalement l'application de l'interdiction ministérielle d'organiser le marché. Nous avons organisé un drive qui a très bien marché. Les clients ont été en rendez-vous et les commerçants qui se sont mobilisés ont pu ajuster leur quantité, leur stock de produits alimentaires pour ajuster à la demande. Donc l'activité commerciale qui est aussi au cœur de nos priorités a été largement aidée, appuyée autant que nous le pouvions. Des actions en matière de vie associative, en matière de culture aussi, de soutien aux acteurs culturels et d'initiatives d'initiatives de diffusion, de continuité pédagogique aussi avec l'école d'enseignement artistique, de soutien aux acteurs culturels, je le disais, une large mobilisation des associations sportives qui effectivement venaient à l'appui de tout cela. Je le disais en démarrant, il s'agissait d'une crise sanitaire et donc l'action en matière de santé a été évidemment au cœur de notre action. Vous avez en tête, chacun a en tête le travail que nous avons fait en nous rapprochant des professionnels de santé pour préparer un centre de consultation et qui au final n'a pas été nécessaire d'ouvrir dans notre secteur, mais qui finalement nous a mis dans la perspective d'ouvrir un centre de dépistage qui se trouve au phare et qui aujourd'hui, compte tenu de la montée en puissance du dépistage du Covid, effectivement trouve un écho extrêmement favorable auprès des Tournefeuillais, mais beaucoup plus largement auprès de toutes les communes de l'Ouest toulousain qui viennent effectivement auprès du laboratoire Tournefeuillais effectivement chercher un dépistage. La question de la santé était la question de la protection des personnes. Vous savez que nous sommes venus faire l'acquisition et la distribution d'un masque pour chaque Tournefeuillé, un masque pour chacun. Ça a été là aussi un très bel élan de solidarité de mobiliser 250 volontaires bénévoles et de nombreux élus parmi ceux-là pour apporter au domicile au plus près de la composition de la famille dans un certain nombre de communes. On a envoyé par la poste, on a mis de façon forfaitaire dans des boîtes aux lettres. Nous avons pris l'option de faire au plus juste et dans des conditions difficiles. C'est particulièrement difficile à organiser, mais le succès est au rendez-vous et en tout cas les Tournefeuillais vous en remercient très chaleureusement. J'insiste sur le fait que c'est une commande que nous avons faite avec l'ensemble des communes de Toulouse Métropole. Hein, ce n'est pas un service de Toulouse Métropole, ce n'est pas une dotation de service de Toulouse Métropole, comme j'ai pu le lire. Je profite de cette occasion pour dire qu'effectivement, il s'agit bien là d'une commande intercommunale, plus exactement, et qui bénéficie aux Tournefeuillais. Voilà ce que je voulais vous dire de façon les éléments les plus marquants sur la gestion de cette crise. Lorsque est venue la perspective du déconfinement, et en l'anticipant un petit peu, chacun a pu constater que nous avions, par rapport aux annonces gouvernementales ou du Premier ministre ou du Président de la République, finalement nous avions peu de temps pour réagir et préparer les différentes étapes, mais nous avons eu à préparer un plan de reprise d'activité et que les services ont préparé, qui a été présenté et discuté avec les organisations syndicales et qui a été finalisé par la commission de suivi de cette crise du Covid. C'est important d'avoir bien en tête la structure de la gestion de cette crise sur laquelle nous sommes appuyés aussi pour mettre en œuvre le plan de reprise d'activité. Chacun a en tête deux dates finalement qu'il faut retenir. C'est le 14 mai. Le 14 mai, et pas le 11 mai, mais bien à Tournefeuille, le 14 mai, où nous avons redémarré, si je puis dire, les crèches et les écoles de la commune. Et le 18 mai, date à laquelle nous avons redémarré globalement les services administratifs de l'hôtel de ville et redémarrer l'accueil physique du public. Je pense que chacun a en tête ces deux dates, de la même façon que chacun a en tête qu'un certain nombre d'agents, je le disais en démarrant, n'ont jamais cessé l'activité. Hein, les services vitaux de la collectivité ont absolument été maintenus. J'évoquais la progressivité, c'est sur ce principe que nous nous sommes appuyés pour mettre en œuvre, en fonction des besoins, en fonction de nos capacités à faire, compte tenu de la disponibilité des agents, compte tenu des règles sanitaires, des protocoles sanitaires qui nous étaient imposés, et à juste titre, bien sûr, eh bien, nous sommes venus organiser, et nous poursuivons dans l'organisation de cette reprise d'activité. D'autres dates à l'agenda suivront. Chacun en tête ou pas d'ailleurs, mais en tout cas viendront le 20 mai avec un certain nombre d'activités sportives. Le 25 mai, avec la médiathèque, la reprise d'activité à la médiathèque est très attendue à la fois par les tournefeuillers, à la fois pour rapporter les ouvrages qu'ils avaient empruntés et aussi pour en emprunter de nouveau. Donc, il s'agissait de poser ces dates, d'organiser en fonction des protocoles, en fonction de la disponibilité de nos agents, organiser dans le temps, organiser dans l'espace, organiser le matériel et la protection des agents et des usagers, la protection individuelle, la protection collective, d'appliquer les protocoles dont je viens de parler, de mettre en œuvre des mesures de contrôle. Nous sommes attachés les services d'un bureau de contrôle tournefeuillet pour venir à la fois nous conseiller, mais aussi vérifier, contrôler, attester la reprise d'activité se faisait dans de bonnes conditions. Ce plan de reprise d'activité précise également la situation, bien entendu, la situation administrative. La situation administrative des agents. Donc, ce plan de reprise d'activité a été anticipé, mis en place, et nous poursuivons dans la mise en place de cette reprise d'activité en fonction des possibilités, en fonction de la situation. Nous avons aussi anticipé et préparé la question de la mobilité. La reprise d'activité pouvait nous laisser penser à une difficulté pour les tournefeuillers en particulier, mais pas que, bien entendu, aux citoyens de façon globale, une difficulté ou une appréhension à prendre les transports en commun, même si je ne reviens pas sur les mesures de protection individuelle comme le masque, effectivement, était préconisé. Donc, cette question a été anticipée par des élus de la municipalité qui se sont rapprochés de l'association Vélo Tournefeuille de pied de roue. Et nous avons conduit un certain nombre de réflexions sur comment, dès à présent, nous pouvons réaliser un certain nombre d'aménagements temporaires ou bien dans le moyen terme, comment nous pouvons en prendre en compte cette question pour éviter un surcroît d'automobiles individuelles, tout simplement, et de faire en sorte que la circulation piétonne et vélo soit favorisée. Nous avons en tête, et avec des réalisations prochainement, des aménagements spécifiques. Nous avons la logique est de pouvoir libérer des espaces, par exemple. L'idée est peut-être aussi de réglementer autrement les choses pour que la circulation des cycles, des vélos, puisse être favorisée. Et à cet égard, les mesures que nous avions prises par anticipation sur le développement des zones 30, qui a trouvé... je dirais une mise en œuvre extrêmement importante dans ces derniers jours. Vous avez vu fleurir les petits logos 30 dans un grand nombre de rues. Eh bien, tous ces éléments vont nous permettre de répondre à cette question de la mobilité. Tout ne se fait pas d'un clic. Chacun peut comprendre qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont à la fois très techniques et très réglementaires. Et donc, nous devrons s'inscrire dans une réflexion à moyen terme. Mais en tout cas, c'est un des chantiers que nous avons ouvert pour, là aussi, faire face à, en tout cas, améliorer les conditions de la reprise d'activité des tournefeuillers, notamment dans le trajet quotidien domicile-travail. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire. Nous avons eu à annuler par anticipation un grand nombre d'événements festifs du printemps et de l'été. En l'occurrence, les consignes sanitaires de l'État ne nous laissaient peu d'opportunités pour garder ces grands rendez-vous sur notre commune. Et nous verrons dans quelle mesure, effectivement, nous pourrons reporter un certain nombre pour là aussi retrouver le plaisir de partager et le plaisir de nous retrouver dans l'espace public dans des temps meilleurs. Voilà pour vous en faire un compte-rendu le plus synthétique possible. Peut-être que Hélène Desmaîtres, sur la question de la solidarité et Muriel Thomas peuvent étayer mon propos sur ces deux aspects, là aussi en étant synthétique, et puis débattre, échanger, recueillir vos avis, vos opinions sur la gestion de cette crise et de cette reprise d'activité. Je donne la parole à Hélène.
Oui, oh, monsieur le maire, vous avez fait à peu près le tour. C'est vrai que depuis le début du confinement, la solidarité est au travail, le CCAS en particulier, où on n'a jamais cessé, bien sûr, les activités. Au contraire, il y a eu du renfort de personnel pour essayer au téléphone d'accueillir au mieux, de répondre à toutes les demandes qui ont été nombreuses. Maintenant, c'est le déconfinement et je crois que c'est maintenant qu'on va avoir à prendre en charge de nombreuses personnes qui sont d'une part un peu déphasées ou qui se retrouvent seules ou qui se retrouvent en difficulté financière. Donc, lors du prochain conseil d'administration du CCAS, on va avoir à traiter de nombreux sujets là-dessus. Ce que je voulais dire aussi, c'est vrai que il y a eu de nombreux volontaires qui nous ont permis de faire un maximum. Et la solidarité à Tournefeuille, ça a été vraiment un élan magnifique. Merci à tous. Vous avez vraiment répondu, tout le monde, sans penser à d'autres enjeux que d'aider vos voisins, que d'aider les personnes. Et ça, ça a été vraiment quelque chose qui a fait chaud au cœur et qui nous a permis d'avancer. Sur les résidences, c'est vrai que tout s'est très, très bien passé. Nos personnes âgées sont ravies de tout ce qui s'est passé. On n'a pas eu du tout de... Pour le moment, on essaie vraiment d'être encore vigilant, puisque les visites sont vraiment très régulées. On n'a pas eu de personnes atteintes du virus et on a eu, au contraire, on a essayé de faire en sorte que les personnes ne soient pas dans la morosité. Notre accueillante et animatrice a fait le maximum pour donner de la vie jusqu'à organiser, à titre d'exemple, un loto avec des micros, les portes ouvertes. Enfin, on a essayé de faire au maximum pour que tout se déroule le moins mal possible. Je ne pourrais pas dire le mieux possible. Voilà. C'est vrai que ce qu'il faut retenir de tous ces événements, c'est vraiment la chaleur humaine et la solidarité. Merci.
Merci Hélène. La question des écoles a été une question centrale à la fois dans l'organisation des services, parce qu'elle est au cœur de la vie des familles, bien entendu. Muriel, peut-être un éclairage sur la reprise des activités des écoles de la commune le jeudi dernier 14.
Alors oui, notre objectif et toutes les concertations qu'on a menées pendant ces phases très très courtes qu'évoquait tout à l'heure monsieur le maire, avec les parents d'élèves, avec les directeurs d'école, avec l'inspectrice de l'éducation nationale, avec comme objectif d'essayer de rassurer les familles et de donner envie aux enfants de revenir à l'école dans des conditions certes sanitaires contraintes, mais voilà, cette envie de retrouver les copains de classe et d'essayer de trouver un cadre qui soit le plus agréable quand même pour eux, et en essayant de jouer un peu sur ces contraintes et l'appréhension des distanciations qui sont pas forcément facilitantes. Voilà, et je pense que le pari a été réussi. Pour preuve, des parents qui étaient hésitants sur le premier sondage qu'ont fait les directeurs d'école pour mettre les enfants à l'école sont sur le deuxième sondage, souhaitent que leurs enfants viennent. Donc la difficulté va être que dans le cadre contraint que nous avons été obligés de mettre en place, c'est-à-dire des groupes de 8 à 12 enfants par classe, vont obliger à des rotations un peu plus régulières. Donc les enfants iront relativement peu. Bon, ça c'est pas de notre compétence, c'est les enseignants et directeur d'école qui le détermine, mais bon voilà, ça sera en même temps l'occasion pour les enfants de reprendre un petit contact avant la rentrée. Et sur le temps périscolaire, nous avons pu maintenir l'accueil le matin dès 7h30 parce que finalement c'est ce qui rend le plus service aux familles. En tout cas, c'est des retours qu'ils nous font. Nous avons beaucoup insisté sur la pause méridienne pour que ce soit un temps chaleureux et qui donne l'envie aussi aux enfants de, même s'ils sont que deux par table, de pouvoir déguster un bon repas chaud, parce que l'idée de sortir le sandwich du cartable dans la salle de classe, pour nous, c'était impensable. Donc voilà, les personnels de la restauration et des satellites ont mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour que ça se passe le mieux possible. Malheureusement, nous ne pouvons même pas plus accueillir les enfants sur la laïe du soir à partir de 16h. C'est en lien avec les contraintes sanitaires qui sont extrêmement lourdes pour les personnels d'entretien et qui nécessitent d'avoir au moins 2 à 3 heures de ménage le soir pour pouvoir respecter les règles de nettoyage et désinfection. Donc, pour le moment, nous en sommes là. Donc, nous verrons comment les choses pourront évoluer au fur et à mesure des semaines qu'il nous reste à vivre. Et le mercredi, avant les vacances d'été du mois de juillet. Et l'autre petit sujet, nous avons pu aussi accueillir les enfants le mercredi après-midi pour un service d'accueil. Donc, sur chaque école, de façon à ce qu'il n'y ait pas de déplacement en bus des enfants et de limiter toujours les échanges entre groupes et pouvoir faciliter à un moment donné s'il y avait un enfant suspect, de pouvoir éviter de fermer un trop grand nombre d'écoles et de se limiter à un groupe. Voilà, l'objectif est là, et surtout vraiment je remercie vivement tous les services qui ont œuvré, les services techniques, les responsables des services d'entretien, que ce soit les agents municipaux, les ATSEM, qui se sont vraiment mobilisés pour travailler en équipe avec les directeurs d'école et mettre en place un plan de reprise d'activité qui a été validé par le cabinet consulte et donc a permis de rassurer tout le monde.
Merci, merci Muriel, Hélène, de ces éclairages particuliers. Dans les sujets que j'évoquais, nous avons été en contact dans la gestion de cette crise avec les services de la préfecture de façon régulière, les services de Toulouse Métropole sur des sujets qui touchent aux compétences de Toulouse Métropole. Et nous avons été aussi en contact avec les forces de sécurité. Parce que nous avons tenu à ce que effectivement, même dans cette période de confinement, eh bien, la sécurité des tournefeuillers soit assurée. Et pour votre information, les commissariats de la zone police de l'Ouest Toulousain étaient fermés, Colomiers et Bagnac étaient fermés, le commissariat de Tournefeuille est resté ouvert au public. Et de ce point de vue-là, les résultats de cette période sont plutôt positifs, satisfaisants. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole pour donner un éclairage complémentaire, donner un avis, une question, si vous le souhaitez? Alors, je vois Isabelle Méfrin. Je vois Daniel Fourmi. Allez, Isabelle Méfrin.
Oui, merci. Merci, monsieur le maire. Bon, je ne reviendrai pas sur le panorama de toutes ces initiatives. Je voulais surtout donner quelques appréciations un petit peu plus personnelles. Redire que tout ce que nous avons fait collectivement montre notre réactivité, notre inventivité et notre capacité à faire cause commune en situation de crise. Je pense qu'on peut vraiment être fier de la mobilisation qui a été la nôtre pendant cette séquence. Et je trouve que cette épreuve que nous avons traversée, parce que c'est quand même une épreuve, elle soude les équipes et que de ce point de vue, il y aura un avant et il y a un après. Monsieur le maire, vous en avez parlé, l'Indesmestre aussi. Vous avez parlé de ce magnifique élan de solidarité. Je voudrais, moi aussi, qu'on remercie effectivement les services et puis aussi tous ces bénévoles qui se sont engagés à nos côtés, parce que sans ces soutiens et sans cette mobilisation, le confinement aurait été bien plus dur et le déconfinement aurait été bien plus problématique à mettre en œuvre. Alors bon, il ne s'agit pas de tomber dans un excès d'autosatisfaction. On peut laisser cela à d'autres. On peut reconnaître aussi peut-être qu'il y a eu peut-être quelques petits cafouillages, mais vraiment, très sincèrement, tout cela a été minime et marginal. Et je pense que vraiment, on peut être satisfait de ce que nous avons fait pour protéger la santé des tournefeuillers, pour apaiser les situations de détresse, pour atténuer les difficultés économiques des artistes, des associations, préparer la réouverture des écoles et des crèches, et ne laisser personne démuni dans la rue, et repérer aussi les situations familiales difficiles. Voilà. Globalement, il faut aussi qu'on le reconnaître, on a eu, l'expression, on a eu de la chance, entre guillemets. On a eu plusieurs chances. La première, quand même, c'est d'avoir été bien moins fortement impacté que l'Est et le Nord de la France. Nous n'avons pas vécu, par exemple, le drame de la Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France, le département où habite toujours entre guillemets le petit personnel, hein, ce que l'on appelait aussi les premières et les premiers de corvée, les caissières, les aides-soignantes, ceux qui s'occupent de nos déchets. Ce département a payé un tribut excessivement fort à cette crise. Et ce qui se passait en Seine-Saint-Denis doit nous le rappeler, ce sont toujours les plus fragiles qui paient les crises au prix fort. La seconde chance, c'est que les tournefeuillaises et les tournefeuillers ont fait preuve d'un grand esprit de responsabilité. Bon, il y a eu quelques petites entorses au confinement, certainement, mais là encore, globalement, tout le monde a fait preuve de civisme en pleine conscience et connaissance. Marcel Gaucher le disait il y a quelques jours sur une radio nationale, nous sommes passés dans une société informée et éduquée et qui n'accepte plus cette attitude de supériorité des gouvernants parce que l'on sait où l'on va. Autrement dit, il vaut toujours mieux faire appel à la responsabilité et à la participation de chacun plutôt que de formuler des injonctions paternalistes, voire guerrières. Quelques petits éléments d'appréciation un petit peu plus personnels maintenant.
Pour dire, synthétique.
Voilà, notre gouvernement quand même a pris en boomerang les conséquences de plusieurs décennies de politique néolibérale, de destruction méthodique des services publics, politiques qui sont aussi les siennes. Heureusement que les collectivités locales ont répondu présent et sont parvenues à maintenir des services essentiels. Bien sûr, il est encore trop tôt pour faire une analyse détaillée de l'engagement des collectivités. L'heure des comptes, et espérons-le, de la reconnaissance, viendra en son temps. En revanche, quand même, cette crise, elle nous révèle des choses que nous ne pouvons plus feindre d'ignorer. Elle a mis au grand jour, en grandeur réelle, le crash test, que notre système globalisé est injuste et qu'il est à bout de souffle. Elle a révélé la vulnérabilité extrême d'une économie devenue hors sol, qui fonctionne à flux tendu, en chaîne de valeur construite pour maximiser les profits et non pour le bien-être des êtres humains. Bon, on a découvert aussi, grâce au confinement, le temps qui ralentit, le silence, l'air pur, on a pu ressentir tout cela et on a vu les tournefeuillers changer de comportement, redécouvrir les circuits courts, le plaisir du retour à l'essentiel. On a pu aussi voir, y compris dans notre collectivité, de nouvelles formes d'organisation du travail et son corollaire, la réduction des besoins de déplacement.
Merci.
Bon, je veux dire que ce n'est pas anecdotique hein, et qu'il y a quand même vraiment un enjeu à tenir compte des leçons quand même de cette crise. Et il y a d'autres crises qui sont en cours, hein, qu'on ne peut pas non plus ignorer. Je pense à la crise du climat, de la biodiversité, la crise de ressources. Toutes les dépendances dans lesquelles nous sommes nous menacent aussi gravement que la crise du coronavirus. Voilà, c'était un message que je voulais vous faire passer.
Eh bien, le message est passé. D'autres mains s'étaient levées. Je ne vois pas de...
Daniel
Fournier. Les collègues, on essaie d'être synthétique, s'il vous plaît.
Je vais prendre le temps qu'il faut. Vous m'entendez? Oui?
Oui, oui.
Oui, on t'entend.
Donc, ce conseil municipal se tient une semaine après le déconfinement, le début du déconfinement. Bon, mais j'approuve tout à fait l'intervention d'Isabelle Meffray, mais bon, je souhaite quand même intervenir en disant que mon intervention peut-être va dépasser le strict cadre municipal, mais je crois que les circonstances l'appellent. En effet, comme Monsieur le maire l'a rappelé, la pandémie a frappé notre pays comme de nombreux pays du monde et les décisions gouvernementales pour y faire face ont directement impacté la vie des tournefeuillaises et tournefeuillais ainsi que l'activité des services municipaux. Personnellement, je m'associe naturellement au message de reconnaissance envers tous ces personnels municipaux, métropolitains et les élus qui ont été en première ligne pendant le confinement et maintenant le déconfinement, la priorité ayant été d'assurer la continuité des services indispensables, d'assurer la protection sanitaire des personnels et des habitants et de faire preuve de solidarité envers les plus vulnérables. Je ne rentre pas dans le détail, cela a été fait par Monsieur le maire et les adjoints, mais je veux, comme Isabelle, retenir que l'échelon communal, du fait de la proximité avec les habitants, et de sa culture de service public a fait preuve de son utilité et de son efficacité. Il en est de même pour la période de déconfinement, avec la reprise progressive de l'activité et la distribution gratuite des masques aux habitants. Nous souhaitons que d'autres étapes suivent, avec la reprise des services sportifs, culturels notamment. Il ne faudra pas l'oublier, oublier ce rôle joué par les collectivités locales pendant cette crise sanitaire et en tirer toutes les leçons, localement certes, mais aussi nationalement, car on a souvent entendu que les collectivités locales sont trop dépensières. Elles ont été soumises à des cures d'austérité budgétaire incompatibles avec leur mission de service public. Et ceci ne date pas d'Emmanuel Macron. Il faut que nous ayons tous, quelle que soit notre sensibilité politique, l'honnêteté de le reconnaître. Ce qui est vrai pour les personnels des collectivités territoriales l'est encore plus pour ceux des services de santé, en particulier des hôpitaux publics qui ont été en première ligne pendant la crise. Il est bien qu'Emmanuel Macron fasse un examen profond de conscience en disant qu'il s'est trompé sur ses choix politiques, notamment en faisant référence aux réformes hospitalières et à la suppression massive de lits. Mais là encore, il faut en tirer des conséquences. Je doute qu'une prime, plus une médaille, plus une commémoration le 14 juillet suffise à refonder le service public de santé afin qu'il retrouve sa mission initiale, celle définie lors de la création de la sécurité sociale sous le Conseil national de la Résistance par Ambroise Croizat. Il en est de même pour la recherche publique dont on attend beaucoup tous les jours, mais qui est depuis des années soumise à l'austérité budgétaire et à la culture libérale. Je peux vous renvoyer à l'intervention que j'ai faite à ce sujet à la métropole toulousaine. Concernant notre industrie, construire les meilleurs avions du monde à Toulouse, c'est très bien, mais que dire aussi de notre incapacité industrielle à produire des tests PCR ou des protections permettant d'assurer la sécurité sanitaire d'abord des soignants et ensuite des populations. On ne peut pas se satisfaire de l'explication que la pandémie a provoqué des tensions sur le marché des tests, des masques et des médicaments. Non, notre pays a été désindustrialisé par les gouvernements successifs. Je crois aussi qu'il faut être attentif à la proposition qui monte de création d'un pôle public du médicament venant de personnalités politiques de toutes parts, car au-delà du scandale de la destruction ou de la gestion des stocks de masques et des mensonges gouvernementaux sur le sujet, chacun sait aujourd'hui que le coût de la crise n'aurait peut-être pas été de cette ampleur si l'hôpital avait eu plus de moyens et si notre pays avait gardé sa maîtrise industrielle.
En conclusion, Daniel, s'il te plaît.
Beaucoup d'élus, mais je ne parle pas souvent, donc je peux parler. Beaucoup d'élus.
Daniel.
On est presque terminé.
On est en visio. Voilà, on est en visio.
Beaucoup d'élus et de citoyens.
On a mis ce sujet pour échanger
sur la gestion gouvernementale de la pandémie dès son apparition. Une commission d'enquête parlementaire sur le sujet permettra de dire ce qu'il en a été, mais déjà l'expérience d'autres pays est source d'enseignement. Je voudrais terminer en disant que cette crise sanitaire aura des conséquences importantes, y compris sur notre commune, même si le virus a été peu présent. Faisons qu'elle soit positive et empêchons que les recettes de l'argent roi et de l'austérité budgétaire s'imposent à nouveau. Faisons que notre action ait pour objectif l'humain et la préservation de notre planète. Ceci est important car on entend de toutes parts plein de recettes pour faire face à la crise économique qui pointe. Fin des 35 heures, travailler plus, moins de vacances, faire sauter des verrous légaux protecteurs de l'environnement, etc. Peu de propositions, en revanche, pour aller chercher l'argent là où il est. Paradis fiscaux, 80 milliards. Gros bénéficiaires des dividendes des entreprises du CAC 40, 70 milliards. Je termine en disant qu'il faut qu'on soit attentif au niveau de notre commune, certes intervenir sur la gestion communale, mais être attentif sur tout l'environnement politique et économique, puisqu'on le voit, une crise a des répercussions pour toute la population et on est en première ligne pour la gérer. Je vous remercie.
Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Alors, je vous remercie, mes chers collègues, de vos interventions, de cette séquence de compte-rendu de cette gestion de la crise et de la reprise d'activité. Je voudrais à mon tour effectivement terminer en vous remerciant pour l'implication que vous avez eue dans ces différentes étapes. Remercier à nouveau les agents, remercier l'ensemble des volontaires bénévoles qui se sont associés à cette gestion de la crise, parce que effectivement ça a été, comme ça a été dit à plusieurs reprises, un grand élan de créativité et de solidarité, bien entendu. Je vous remercie. Alors, je vous propose d'en revenir après ce liminaire, un peu long mais nécessaire, à l'ordre du jour de notre conseil municipal qui appelle 14 délibérations et qui appelle en premier lieu l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 19 décembre. Il se trouve qu'effectivement, il avait fait l'objet d'une approbation de votre part à distance, compte tenu de la période. Néanmoins, je dois formellement vous demander de l'approuver. Y a-t-il des difficultés pour approuver ce PV ? Je ne vois pas de main qui se lève. On considère qu'il est approuvé à l'unanimité. Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous en remercie. Nous avons une délibération qui porte sur les modes d'organisation, la tenue de nos réunions de notre conseil municipal, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire et compte tenu des textes qui encadrent le fonctionnement de nos instances délibérantes. Vous avez donc cette délibération. Elle porte sur des règles particulières en matière de quorum. Elle porte sur un assouplissement des conditions dans lesquelles le conseil municipal peut être sollicité. En tout cas, la réunion du conseil municipal peut être demandée. Elle porte, cette délibération, effectivement, vient alléger les règles de consultation des commissions particulières. Nous avons, en amont de notre conseil municipal, réuni uniquement la commission permanente. Nous avons ensuite, cette délibération porte sur la possibilité de tenir nos assemblées en téléconférence. Voilà, donc vous avez les éléments essentiels de cette délibération qui porte sur ça, l'idée de réunir notre conseil municipal avec la solution vidéo qui a été choisie, qui est Zoom. Les participants sont identifiés. Lorsque nous procéderons au vote, je vous l'indiquais tout à l'heure, vous leverez la main pour voter et je nommerai les votes pour qu'ils soient enregistrés de façon nominative. Et effectivement, pour pallier à la question du scrutin public, nous viendrons mettre à disposition du public, aussitôt que possible, dès demain, l'enregistrement son de notre session. Voilà. Est-ce que cette délibération appelle des observations, des questions de votre part ? Je n'en vois pas, je ne vois pas de main qui se lève. Je vous propose d'approuver cette délibération sur la détermination des modalités de fonctionnement de notre conseil municipal. Y a-t-il des abstentions ? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. La deuxième délibération porte sur les délégations faites à l'exécutif. Vous savez que les délégations au maire du conseil municipal sont fixées par l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Il évidemment a été modifié, ces délégations ont été modifiées par l'ordonnance 391 du 1er avril 2020 et qui effectivement prévoit une modification des délégations que je viens d'indiquer de cet article 21-22. Effectivement, les modifications portent sur plusieurs sujets, notamment l'attribution de subventions et la contractualisation d'emprunts. La délibération est claire, présente aussi le fait que entre les délégations que vous avez autorisées, que le conseil municipal de Tournefeuille a autorisées au maire en 2015 et aujourd'hui, l'article 21-22-22 a été modifié. Et donc, la délibération que nous prenons aujourd'hui porte sur les délégations qui sont prévues par cet article 21-22-22, auxquelles viennent s'ajouter effectivement entre 2015 et aujourd'hui des autorisations d'urbanisme par rapport à des biens municipaux dans le cadre de démolition, de transformation ou de construction. Le 21-22 a été modifié aussi par rapport à des règles de protection des occupants de locaux à usage d'habitation. La délégation a été modifiée en matière d'organisation, je dirais, de la consultation par voie électronique, notamment liée au code de l'environnement. Ça fait référence à de l'enquête publique. Voilà les trois sujets qui, eux, relèvent d'une modification du Code général des collectivités territoriales entre 2015 et aujourd'hui. Est-ce que cette délibération appelle des questions de votre part, des observations ? Je ne vois pas de main qui se lève. Je vais soumettre à votre approbation. Qui s'abstient sur cette délibération ? Qui vote contre ? Madame Pélisson ? Mettez votre micro, Madame Pélisson. Je vois que vous parlez, vous voulez vous exprimer. Mettez votre micro.
Juste, je voulais m'abstenir parce que c'est vrai qu'il y a des délégations importantes et je le comprends, hein, qui sont transférées, mais les sujets sont vraiment très importants et je préfère m'abstenir plutôt que de voter.
D'accord. Très bien. Nous notons une abstention pour Madame Pélisson. Est-ce que c'est une abstention pour Madame Lancio aussi, pour lequel vous avez une procuration ?
Non, il n'y a pas de procuration, Monsieur le Maire.
D'accord, il n'y a pas de procuration. Donc nous notons une abstention pour Madame Pélisson. Donc une abstention. Des votes contre ? Je n'en vois pas. Le reste des participants est pour. Je vous en remercie. Nous avons une délibération qui porte sur le compte-rendu des décisions municipales. Elle porte sur un certain nombre de sujets, notamment sur le fait que, ma qualité de maire, je suis venu demander une subvention au conseil départemental pour l'extension prévue de l'école élémentaire Moulin à Vent. Je suis venu demander une subvention au titre de la création du complexe sportif de tir à l'arc. Et puis, je suis venu souscrire le financement d'un besoin de trésorerie auprès de la Banque Postale. Vous avez en annexe de cette délibération les textes liés à ces décisions municipales. Nous avons, alors les marchés à procédure adaptée sont un autre dossier, le dossier suivant. Est-ce que ce compte-rendu que je formule appelle des questions de votre part? Oui, me dit que Monsieur Morgales.
Micro.
Allumez votre micro.
Monsieur Morgades, allumez votre micro.
C'est fait. Vous m'entendez?
On ne vous entend pas. On ne vous entend pas.
Désolé.
Allez-y. Voilà, parfait.
Vous m'entendez pas, toujours pas.
Si, on vous entend.
Ah bon, d'accord. Oui, j'ai une question, une précision en fait. Hein. Dans le texte de la décision municipale, à deux reprises d'ailleurs, il est écrit « considérant la nécessité de déposer un dossier de demande de subvention ». Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui motive la nécessité de déposer. Allô ?
Oui, je vous entends, Monsieur Morgades. Nous avons la nécessité de solliciter des subventions pour alimenter nos recettes d'investissement dans l'équilibre de notre budget. Nous avons des dépenses d'investissement, nous avons des recettes d'investissement, nous autofinançons une part, mais nous avons besoin de ce cofinancement de nos équipements. Et il est particulièrement légitime de la part de la région ou du département d'aider les communes. C'est dans leur mission, dans leur compétence, d'aider les communes à s'équiper, en particulier à réaliser des investissements. Voilà. Donc, besoin pour nous, oui, nous avons toujours besoin de trouver des cofinancements de nos investissements. Et il est légitime que la région et le département nous aident dans cette mission.
Merci, Monsieur le maire. Ce n'était pas dans ce sens-là que je posais ma question et je pense que vous l'avez très bien compris. Non, c'est plutôt… Alors, dans un premier cas, c'est une extension d'école. Très bien, on voit le caractère, je dirais, nécessaire, normal, tout ce que vous voulez. L'autre cas, c'est du sport, c'est du tir à l'arc. Bien, on va aussi, et il y a aussi la nécessité de déposer un dossier. Non, la question, c'est qu'adviendrait-il si les demandes de subvention n'étaient pas acceptées ou s'il n'y avait pas de subvention. Autrement dit, est-ce que vous avez engagé ces travaux ou ces investissements en ayant déjà l'assurance qu'on aurait les subventions en question, ou bien vous êtes dit, mais si on ne les a pas, eh bien on empruntera un peu plus, on fera un peu plus de déficit. Enfin, on ne peut pas faire de déficit, mais on empruntera un peu plus.
Oui, donc la question, elle n'est pas effectivement… Elle était masquée, on va dire. C'est la période.
Oui, mais vous l'avez bien compris, Monsieur le maire. Vous nous connaissez, je vous connais.
Je vous ai moyennement compris. Donc, vous le reformulez de façon claire. Une demande de subvention ne nous engage pas dans la réalisation de cet investissement. De la même façon que vous trouverez cet investissement au titre des marchés. Qu'adviendrait-il? Et après, je vais vous répondre sur le fond. Vous posez une question d'opportunité, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, vous dites, est-ce qu'il est opportun de réaliser ces investissements? Ce débat a eu lieu puisque ce sont des APCP et on est sur un investissement pluriannuel. Et on reprendra l'ensemble de cette discussion lors de notre prochain conseil municipal où nous adopterons le budget. Donc, il n'y a pas de surprise sur l'idée de cet investissement. Le débat a déjà eu lieu. En revanche, la demande de subvention n'entraîne pas automatiquement la réalisation de cet investissement et le passage d'un marché non plus. C'est-à-dire que dans la période, votre question est intéressante sur le fait qu'elle m'amène à préciser ça, dans la période nous amènera à être extrêmement prudent dans l'élaboration du budget 2020. Et donc, effectivement, c'est le sujet du conseil municipal prochain, nous verrons la réalisation de cet équipement en se réinterrogeant pas sur son opportunité, puisque cette question elle est tranchée, mais sur notre capacité à effectivement le réaliser. La demande de subvention ne préjuge pas, ne préjuge pas de la réalisation de l'équipe.
Merci, Monsieur le maire.
Merci à vous. C'est pour information, je crois. Hein, c'est pour information. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au dossier suivant qui sont les marchés à procédure adaptée. Les MAPA, les marchés, vous en avez la liste. Alors, la liste est un peu plus longue que d'habitude. Mais en gros, nous avons un certain nombre d'avenants à des marchés qui avaient été déjà passés. Et puis, nous sommes venus effectivement passer un certain nombre de marchés, divers et variés, de bâtiments, d'équipements divers, pour assurer le fonctionnement de la collectivité. Est-ce que cette liste des marchés à procédure adaptée, c'est pour votre information, est-ce que ça appelle des questions de votre part? Non, je vous en remercie. Je vais donner la parole à Bernard Bensoussan, qui va nous présenter les quatre délibérations qui touchent au foncier, les quatre délibérations suivantes. Bernard, est-ce que tu es là?
Je suis là.
Est-ce que vous entendez? Merci de présenter ces délibérations. Nous t'entendons très bien.
Très bien. Donc, la première concerne donc un terrain qui est un délaissé, en fait. Hein. Donc, on avait été sollicité par les époux Merguerou, domiciliés 6 rue d'Auteuil, pour la cession donc, de ce délaissé de l'impasse qui fait 116 mètres carrés et avec aussi une parcelle attenante de 600 mètres carrés. Donc, il s'avère que ces terrains sont à l'arrière de la propriété de ces personnes et qui, en fait, comme c'est un délaissé, ils sont assez peu utilisés, sauf pour des rassemblements qui seraient peut-être plus lieu de... Voilà, il y a eu quelques incendies, de scooters, des petites destructions de haies, des choses comme ça. En tout cas, c'est des parcelles qui nous concernent, enfin, qui appartiennent au domaine public de la commune et qui sont plus source de dépenses pour nous, pour les entretenir, qu'autre chose. Et donc, il est proposé de désaffecter et de déclasser donc, la partie du domaine public prolongeant la rue d'Auteuil pour 116 mètres carrés afin de la céder à la parcelle AA 126 pour 36 mètres carrés aux époux Merguerou. Donc, ça fait au total, on va céder à aux époux Merguerou 152 mètres carrés. Après avis des domaines et en accord avec les demandeurs, on a fixé le prix à 50 euros le mètre carré, soit 7 600 euros pour ces deux parcelles. Les frais de notaire et de géomètre étant en sus et à la charge des acquéreurs.
Voilà. Merci. Est-ce que ça appelle des questions de votre part? Est-ce que ce dossier appelle des questions de votre part, des observations? Je ne vois pas de main qui se lève. Je vais soumettre à votre approbation. Y a-t-il des votes contre? Je ne vois pas de contre. Y a-t-il des abstentions? Je ne vois pas d'abstention. Cette délibération est adoptée à l'unanimité de l'Assemblée. Je vous remercie. Bernard, la suite?
Alors, la suite. Alors, je ne sais pas si j'ai dans le bon ordre ou pas. Moi, elle concerne toujours des appartements que l'on acquiert et qu'on a acquis, là, 53 rue Gaston-Doubert, avenue Jean Jaurès. C'est toujours la même protocole que l'on a avec Patrimoine Languedocienne et Toulouse Métropole pour ses achats et ses ventes de logements. Là, il s'agit d'un T1, le lot 41 avec son garage, le lot numéro 24. Et on avait acquis ce logement suite à une préemption de la vente Galinier-Mercadier pour un montant de 48 500 euros. Sachant que la revente de ces logements pour le logement social à Patrimoine Languedocienne fixe un prix planche, un prix plafond de 1100 euros le mètre carré, et on considère que le garage compte pour 5000 euros en plus, il va falloir faire abonder donc la différence par une subvention qui viendra se déduire de la fameuse taxe SRU pour donc un montant donc de 18 200 euros, la différence entre 30 300 euros, le prix de vente, et le prix réel de l'acquisition, 18 200 euros. Voilà.
Merci, c'est une délibération
habituelle
que nous instruisons régulièrement. Y a-t-il des observations, des questions? Je ne vois pas de main qui se lève. Je soumets à votre approbation. Y a-t-il des votes contre ? Monsieur Morgades. Monsieur Morgades, contre. Y a-t-il d'autres contre ? Non, un contre. Des abstentions ? Pas d'abstention. Signalez-vous, je n'en vois pas. Un vote contre, monsieur Morgades. Pas d'abstention. Le reste de l'Assemblée est pour. Bernard Bensoussan, le dossier suivant.
Donc là, on est chemin d'Elbez. Donc en 2017, on a fait. On a refait ce chemin, ça a duré plusieurs années. Donc, il a fallu frapper d'alignement 5 propriétés. Donc, ces alignements ont fait l'objet de divisions parcellaires pour être transmises à Toulouse Métropole, puisqu'il s'agit de voiries, et les réintégrer dans le domaine public. À ce jour, donc, les divisions n'ayant pas été totalement rétrocédées de manière notariée à Toulouse Métropole, 2 des 5 propriétaires concernés par cet alignement, connaissant des problèmes de succession à régler immédiatement, nous ont sollicité pour qu'on avance un petit peu plus rapidement. Donc, pour répondre à cette situation d'urgence, on propose de régulariser ces alignements et de faire plus tard le transfert des parcelles à Toulouse Métropole pour le classement en domaine public. Donc, les parcelles alignées, vous avez le plan qui a été ajouté. Excusez-moi, il y a des... La lumière, pas bien. Vous avez le plan hein, des parcelles. Donc, il s'agit de la parcelle BR 517 pour 13 mètres carrés appartenant au consort Segria, c'est 20 rue Belbez. Nous avons la parcelle BT 515 pour 19 mètres carrés aux époux Tapniato au 24 rue Belbez. La parcelle BS 199 pour 17 mètres carrés, c'est la division Huguenet. 34 rue Belbez et la parcelle BS 395, 26 mètres carrés, c'est pareil, la division Huguenet au 32 rue Belbez et la parcelle BS 397 pour 17 mètres carrés qui appartient à la HLM Les Chalets. Donc là, en fait, la rétrocession va se faire à l'euro symbolique et compte tenu du prix modique, bien que réel, ce versement ne sera pas fait pour ces alignements. Voilà.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Je ne vois pas de main qui se lève pour une question ou une observation. Je soumets à votre approbation. Y a-t-il des abstentions ? Je ne vois pas d'abstention. Y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Je vous remercie. Le dossier suivant ?
Alors, le dossier suivant. On est donc sur les hauts de Tournefeuille, et en particulier dans le lotissement des hauts de Tournefeuille, et ce lotissement qui avait été fait par la SNC Chana et compagnie Gabriel Saramit, cette association de ces deux promoteurs, donc demeure propriétaire de 2 parcelles cadastrées AD34 et AD148 dans ce lotissement. Alors, ces parcelles, l'une correspond donc à l'emplacement d'un transformateur électrique et l'autre, c'est en fait une emprise sur le chemin de Cordonis qui est assez importante. Monsieur Saramit, représentant sa société, a donné son accord pour céder aussi à l'euro symbolique ces 2 parcelles à la commune. Donc, il sera procédé à l'acquisition à l'euro symbolique de ces 2 parcelles et la restitution, au moins sur la parcelle AD148, hein, celle qui longe le chemin de Cordonis, à Toulouse Métropole. Voilà. C'est une des parcelles qui aurait dû être déjà rétrocédée depuis longtemps. Et là, il s'agit de faire les actes notariés qui correspondent. L'intérêt de la parcelle AD148, c'est qu'elle va pouvoir nous permettre de faire un cheminement piéton-cycle entre le chemin de Cordonis et le clos des Herbettes, je pense.
Merci. Voilà. Y a-t-il des questions, des interrogations ? Pas d'observations. Je soumets à votre approbation. Y a-t-il sur cette délibération des abstentions ? Je ne vois pas d'abstention. Des votes contre ? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Alors, on notera que Madame Merales a disparu. Je pense qu'elle a eu une interruption sur la délibération précédente et celle-ci. Merci. Gilbert Quéré nous présente les deux rapports suivants. Le premier concerne l'acquisition d'un bâtiment rue Colbert.
Alors, ce bâtiment est situé juste à proximité donc, des services techniques sur la zone de Pain. Ce bâtiment était loué depuis plus de 20 ans par une municipalité à son ancien propriétaire. On avait d'ailleurs souhaité à une époque en faire l'acquisition, mais bon, ça n'avait pas été possible avec l'ancien propriétaire. Suite à son décès, dans le cadre de la succession, son héritier a donné une suite favorable à notre demande pour faire cette acquisition. Alors, ce bâtiment est très intéressant pour nous puisque nous l'utilisons actuellement pour mettre nos camions, qui sont en fin de compte des camions ateliers puisqu'il y a tous les matériels pour intervenir dans nos différents bâtiments. Et surtout, ça nous permet de les mettre donc à l'abri pour éviter des détériorations ou des vols. Voilà, et il y a une partie de ce bâtiment, la partie, je dirais, des anciens bureaux qui est mise à disposition du Secours populaire. Voilà pour ce bâtiment. Ce bâtiment fait 400 mètres carrés sur un terrain de 1800 mètres carrés qu'on utilise aussi pour partie pour stocker nos véhicules. Voilà un petit peu pour le descriptif.
Merci Gilbert Quéré. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Monsieur Morgades.
Est-ce que ça marche le micro cette fois-ci? Oui. Parfait. Oui, juste une question. On va acheter 250 kg ce bâtiment que l'on louait jusqu'à présent. Oui. Juste pour avoir une idée de l'intérêt de l'acquisition, peut-on savoir le montant du loyer que l'on réglait donc au propriétaire?
Alors, le loyer était de 19 000 euros par an.
Non, voilà. 25 000.
Ah, 25 000. Alors,
25 000. Oui.
25 000 avec les réévaluations annuelles.
Attendez, s'il vous plaît. Donc, la question est le coût du loyer. Nous avons entendu la voix de M. Longeau.
Oui, c'est moi. Oui.
Qui venait corriger une information. Ce que je pense qu'il faut retenir, c'est qu'on est entre 20 000 et 25 000. Quoi.
C'est 25 000.
On est à 25 000.
Voilà. 25 000, avec les révisions.
Retenons, après vérification auprès de l'administration, retenons, 25 000, la réponse est 25 000 euros par an.
D'accord, mais 20 ou 25 000, ça fait bon. On récupère la mise au bout de 10 ans, donc ça vaut le coup de le faire. C'était ça le sens de ma question.
Bien sûr, bien sûr. Et nous l'avons fait dès que nous avons été en mesure de le faire. Absolument. Merci de cette question qui nous permet d'éclairer le sujet. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? D'autres questions? Non? De prise de parole, je vous propose d'approuver ce dossier. Y a-t-il des abstentions? Pas d'abstention. Des votes contre? Je n'en vois pas. Il est approuvé à l'unanimité. Gilbert, un dossier extrêmement important pour suivre sur la démolition d'un petit morceau de coursive à l'école, à la restauration du château.
Alors, vous avez vu que nous avons entrepris la rénovation des enduits et de la toiture au niveau du bâtiment qui est à côté de la mairie, qui comporte la restauration et en bas les locaux de la LT. Donc, on a mis à nu les murs, et en particulier, on a mis à nu aussi la poutre qui est sur la coursive. Et lorsqu'on l'a mis à nu, on s'est aperçu que cette poutre était très détériorée. Tout le ferraillage de cette poutre était attaqué. Donc, ça nous a interpellés. On a missionné un bureau d'études pour avoir un avis. Et après différents sondages et calculs, ils nous ont préconisé de supprimer cette coursive afin de sécuriser le passage par l'escalier. Donc, aujourd'hui, on est sur cette démolition, et ce qui donnera d'ailleurs une ouverture sur l'ALT sur le bâtiment qu'on n'avait pas aujourd'hui. Voilà un peu. C'est une découverte qu'on a eue en faisant les travaux de remise en état et de crépi quand on a mis à nu. Voilà un petit peu les travaux qui sont nécessaires en termes de sécurité, je dirais.
Merci Gilbert Quéré. Y a-t-il des questions Je soumets à votre approbation ce dossier. Y a-t-il des abstentions? Je ne vois pas de main se lever. Des votes contre? Je n'en vois pas. Ce dossier est approuvé à l'unanimité. Alors, le dossier suivant porte sur la création de postes de saisonniers. Là aussi, c'est une délibération régulière. Nous la prenons chaque année. Le recrutement de saisonniers permet d'assurer la continuité des services de la collectivité et d'organiser la prise de congé de nos agents, d'une part, et d'autre part, de faire face à un surcroît d'activité. Et le plus régulier dans cette période, c'est effectivement le surcroît d'activité lié à la piscine d'été. Donc, c'est dans cet esprit qu'effectivement, il vous est proposé cette délibération pour laquelle vous avez en annexe, la liste des postes et des services sur lesquels nous venons procéder à ces recrutements. Vous y voyez que nous, selon le poste, selon la technicité requise, ces postes sont ouverts par tranche de 15 jours ou bien un mois. Pour les surveillants de la piscine, c'est encore différent. Ce profil-là est une reconduction de ce que nous faisons chaque année. Donc, il n'y a pas d'éléments nouveaux dans cette programmation. Simplement, ce que je souhaitais vous dire, mes chers collègues, c'est que dans la crise du Covid que nous traversons et dont on voit bien la reprise progressive d'activité, on ne sait pas aujourd'hui décider si la piscine d'été sera ouverte ou pas. Et donc évidemment, on est là sur une autorisation de recrutement et pas sur une réalisation des contrats. Et donc, en fonction de l'ouverture à la population publique de notre piscine, eh bien, nous viendrons effectivement pourvoir ces emplois ou pas. De la même façon, nous serons peut-être face à un surcroît d'activité, notamment d'entretien, de désinfection, en fonction de l'organisation de nos centres de loisirs durant l'été, de nos accueils pour les enfants et pour les jeunes, avec une multiplicité de lieux, et nous le voyons bien pour nos écoles. Donc, en fonction de ces deux éléments, ouverture ou pas de ces services, et notamment de la piscine, en fonction, nous adapterons aussi en fonction des besoins supplémentaires que nous pourrions rencontrer. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Je ne vois pas de main qui se lève. Je soumets à votre approbation. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je n'en vois pas. Elle est approuvée à l'unanimité. Je vous en remercie. La délibération suivante concerne toujours des ressources humaines, mais concerne cette fois des emplois inscrits à l'organigramme de la commune. Il vous est proposé de pourvoir à deux emplois permanents à temps complet. Il vous est proposé d'inscrire finalement dans les emplois qui nous permettent de pourvoir ces recrutements à des grades d'attaché territorial. Donc, ces deux postes concernent le responsable du service gestion statutaire à la direction des ressources humaines et le recrutement d'un gestionnaire pour les marchés publics à la direction des finances, ce second poste. Voilà. Donc, ce sont, encore une fois, ces postes existent aujourd'hui, mais nous n'y disposons pas du grade d'attaché pour pourvoir ces postes si, parmi les candidats, nous avions des candidats titulaires du grade d'attaché. Est-ce que ce dossier appelle des questions de votre part? Je ne vois pas de main qui se lève. Je soumets à votre approbation cette délibération. Y a-t-il des abstentions? Non. Des votes contre? Non plus. Je vous remercie. Nous avons ensuite, je me perds, non, il y en a un autre sur la restauration. Oui, il y a bien ça. Nous avons la délibération suivante qui porte sur le recrutement, sur l'autorisation, en tout cas la création dans le tableau des effectifs des grades d'attaché territorial, de cadre de santé première classe, de cadre supérieur de santé, de puéricultrice hors classe, pour procéder au remplacement, là aussi c'est pas une création de poste, mais au remplacement de la directrice coordinatrice de la petite enfance qui fait valoir ses droits à la retraite. Est-ce que, donc on est dans le même processus, hein, dans le même type de délibération, est-ce que ça appelle les observations de votre part? C'est une fonction extrêmement importante, nous sommes très attachés à ce service de la petite enfance. Est-ce que ça appelle des questions de votre part? Je ne vois pas de main qui se lève, je soumets à votre approbation. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je n'en vois pas. Ce dossier est approuvé à l'unanimité. Alors, la troisième délibération porte sur le recrutement d'un chef de production à la restauration centrale. La délibération qui vous est proposée va nous permettre de recruter un profil que nous n'avons pas aujourd'hui, qui est un profil orienté vers la diététique, vers l'équilibre et la santé de la nutrition. Donc, nous avons ce poste de chef de production existe. Il est aujourd'hui, cette délibération doit nous permettre de recruter aussi des agents qui relèveraient du grade de technicien paramédical de classe normale ou bien de technicien paramédical de classe supérieure et pas uniquement des techniciens de production de la restauration. Est-ce que cette délibération appelle des observations de votre part? Je ne vois pas de main qui se lève. Je soumets à votre approbation. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Le dossier suivant porte sur l'indemnité forfaitaire pour la tenue des bureaux de vote pour les élections municipales et le premier tour. Nous, c'est une délibération que nous prenons là aussi à chaque fois que ça se présente. Il s'agit d'allouer l'indemnité forfaitaire complémentaire pour l'élection en faveur des fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant au cadre d'emploi des attachés, des ingénieurs, des rédacteurs territoriaux. Cette indemnité forfaitaire est de 272,91 € et elle est calibrée effectivement sur le montant de l'IFTS, de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, inscrite dans nos grilles de rémunération de travaux supplémentaires. Est-ce que cette délibération appelle des observations de votre part? Je ne vois pas de main qui se lève. Je vous soumets ton approbation. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je n'en vois pas. Ce dossier est approuvé à l'unanimité. Le dernier dossier pour lequel je vais donner la parole à Françoise Ondanieu porte sur l'adoption des tarifs municipaux. La situation particulière que nous vivons en 2020 présente le cas suivant, c'est que effectivement en général nous venons adopter les tarifs municipaux lors de l'adoption du budget prévisionnel de l'année et ce courant en général courant avril. La situation dans laquelle nous sommes est que nous devons, dans l'intérêt des tournefeuillers, des familles, nous devons publier des tarifs pour l'année prochaine. Sans attendre que nous adoptions le budget prévisionnel. Alors, c'est tout à fait possible, hein, c'est une délibération à part entière. Je vous explique simplement que cette modification du calendrier d'adoption du budget prévisionnel de 2020 nous amène à isoler cette délibération sur les tarifs municipaux. Je donne la parole à Françoise Ondanieu. Françoise, est-ce que tu es là?
Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, nous avions besoin d'une petite modification dans les tarifs, hein, parce que la plupart des, les tarifs municipaux n'ont pas évolué, mais il y avait une petite modification concernant, nous avions besoin concernant les abonnements de l'escale. Et dans la mesure où nous ouvrons la billetterie pour la nouvelle saison à partir de mi-juin, voilà, nous avions besoin que cette délibération puisse être adoptée aujourd'hui. Voilà, donc nous avons en fait juste souhaité simplifier, je pourrais dire, un peu les abonnements. Nous avions avant deux abonnements, un abonnement avec trois spectacles, un abonnement avec six spectacles. Nous avons souhaité proposer une seule formule, qui est un abonnement à partir de quatre spectacles, et donc avec deux tarifs, voilà, pour simplifier, un plein tarif à 12 euros, un tarif réduit à 10 euros, et puis surtout pouvoir l'harmoniser avec nos principaux partenaires que sont l'Orchestre de Chambre et le Grenier de Toulouse, que je remercie, voilà, d'avoir accepter d'harmoniser avec nous ces tarifs. Donc cet abonnement à partir de 4 spectacles nous permet au Tournefeuillet un achat pour mixer les spectacles, c'est-à-dire à la fois acquérir des spectacles, pouvoir assister à des spectacles que nous proposons nous dans notre saison, et puis un spectacle ou deux de nos partenaires. Voilà. Donc c'est une, à la fois pour harmoniser, pour simplifier, pour harmoniser et avoir des tarifs attractifs pour les abonnements. Voilà. Sinon, tous les autres tarifs ne bougent pas. Voilà. Donc c'est voilà pour l'escale.
Et puis j'avais peut-être. M. Bessel, François va terminer sa présentation. Je vous donne la parole tout de suite après.
Oui, et je voulais juste rajouter une petite modification aussi sur le phare. Alors, ce n'est pas du tout une modification de tarif, hein. C'est plutôt une simplification aussi. Nous avions trois catégories pour la location du phare, avec une catégorie particulière en fait qui ne servait pas, hein. Donc nous l'avons, puisqu'elle était couverte à la fois si c'est un particulier commercial qui veut louer, ben, il y a déjà le tarif société. Et si c'est un tarif qui veut louer parce que c'est un particulier, voilà, il est déjà couvert par le tarif manifestation familiale. Voilà. Donc nous avons juste enlevé cette catégorie pour simplifier. Et puis nous avons rajouté par contre la tarification des deux nouvelles salles que nous avons avec la nouvelle maison des associations. Puisque nous avons réalisé des travaux, nous avons une nouvelle maison des associations et nous avons deux nouvelles salles que nous pouvons mettre à disposition et que, pour lesquelles nous avons créé des tarifs aussi qui sont les mêmes, voilà, adaptés au mètre carré que nous avons fait pour salle rose et salle verte. Voilà.
Merci. Merci Françoise. Monsieur Bessel, vous souhaitiez prendre la parole sur ce dossier?
C'est simplement une clarification, parce que je n'ai pas très bien compris. Quand vous parlez des abonnements, ça comprend aussi les abonnements au concert de l'Orchestre de Chambre de Toulouse ou pas?
Cet abonnement permet, dans ces quatre spectacles, de prendre un spectacle pour le Grenier de Toulouse, par exemple, et pour l'Orchestre de Chambre également.
D'accord, mais donc si je veux prendre un abonnement qu'à l'Orchestre de Chambre de Toulouse, ce n'est pas ces tarifs-là qui sont...
Ça ne change pas. C'est-à-dire que les partenaires ont leurs propres abonnements. Donc, vous avez un abonnement pour l'Orchestre de Chambre, et là, vous vous référez aux abonnements de l'Orchestre de Chambre, et vous avez des abonnements du Grenier de Toulouse, et là, vous prenez l'abonnement du Grenier de Toulouse. Voilà,
d'accord, ça change. Merci.
Vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Morgades, je vous donne la parole.
Monsieur Morgades, micro.
Mon téléphone portable n'est pas aussi réactif que vous, madame. Excusez-le, mais quand je veux mettre le micro, ça prend quelques secondes de plus.
Bon. J'ai compris, oui, oui.
Merci. Oui, l'année dernière, quand nous avons voté ou quand nous avons délibéré sur ces tarifs, nous vous avions fait part de notre souhait de voir une progressivité ou une progression plus lissé en fonction des quotients familiaux. Il me semble que vous aviez dit, ben, on y réfléchira. Vous venez de dire que ben, ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière, sauf un petit truc technique. Ça veut dire que la réflexion que nous avions faite l'année dernière, vous ne l'avez pas prise en compte. C'est bien ça.
Je vais peut-être laisser Monsieur le maire répondre. La dégressivité dont vous parlez, elle concerne, bon, elle concerne pas l'escale, elle concerne les quotients familiaux, je crois, sur l'école d'enseignement artistique, mais c'est également le cas sur la restauration, etc. C'est ça? Ou bien c'est la dégressivité sur quoi, Monsieur Morgades, pardon?
Alors, je réactive le son, je l'avais désactivé. Je répète, j'ai l'impression que je me suis mal exprimé, donc je vais essayer de trouver des mots plus clairs. Nous étions étonnés d'un manque de linéarité dans les tarifs en fonction du quotient familial. Autrement dit, un effet de marche trop important. Ça n'était suivi l'année dernière une discussion en disant oui, peut-être, enfin, on va réfléchir. Je crois constater qu'aujourd'hui, la réflexion, vous l'avez certainement conduite, mais elle n'a pas apporté une modification quelconque.
Effectivement. Alors, je vais répondre. Effectivement, chacun en tête la discussion que nous avons eue dans le cadre du BP 2019. La réflexion n'a pas été conduite. Les conditions particulières dans lesquelles nous élaborons le budget 2020 ne nous a pas permis de pousser ce travail important sur les tarifs. La remarque peut être pertinente. J'ai pas d'avis à ce stade. Elle méritera d'être regardée plus tard. Ce que je voudrais terminer en disant sur ce sujet des tarifs, la principale préoccupation qui a été la nôtre dans cette délibération aujourd'hui, c'est de maintenir des tarifs pour que les familles tournefeuillaises qui vont être impactées sur le plan économique par cette crise du Covid, bénéficient de tarifs qui soient stables, qui soient reconduits. Donc, ce qui a prévalu, c'est effectivement la reconduction des tarifs, mais la question de la progressivité qui peut être une remarque juste devra être regardée, mais elle n'est pas à ce jour.
Je comprends, je vous remercie de votre réponse, Monsieur le maire.
Alors, je vous propose d'adopter cette délibération globalement sur les tarifs 2020-2021 qui vous ont été présentés. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas et je vous en remercie. Si je ne me trompe pas, nous avons épuisé l'ordre de jour de cette session du Conseil municipal de Tournefeuille. Je vous donne rendez-vous pour un prochain conseil municipal dont nous déterminerons à la fois les modalités. Nous sommes toujours dans la période de cette crise sanitaire. Les réunions sont très encadrées, le calendrier va être défini, recalé, et donc je viendrai en temps et en heure vous donner plus de précisions sur la tenue de notre prochain conseil municipal. Je vois Monsieur Bessel qui veut prendre la parole. Je vous donne la parole, Monsieur Bessel. Nous sommes au titre des questions diverses. On va dire que l'ordre du jour du conseil municipal est épuisé. Oui, allez-y, oui, monsieur Bessel.
Je voulais revenir justement sur ce conseil municipal du mois de juin. Bon, je pense que le deuxième tour des élections va se passer au mois de juin, si j'en crois les rumeurs et les bruits persistants qui courent depuis ce matin. Dans ce cas, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable d'attendre l'issue de ces nouvelles élections pour prévoir le prochain conseil municipal afin que le budget soit voté par à la fois la majorité et l'opposition qui aura à le gérer?
Vous dites qu'il y a des bruits, des rumeurs, des hypothèses en tout cas. d'organisation du deuxième tour en juin. C'est probable. La gestion de cette crise m'a amené à être pragmatique en la matière et d'avancer, au jour le jour, en fonction des informations, en fonction de la confirmation des informations entre les ministres, le Premier ministre, le Président de la République. Et là, c'est effectivement un sujet important. Les assemblées devront s'exprimer aussi de ce point de vue-là. Je prendrai la mesure de tout ça. C'est dans ces termes finalement que je vous disais que je vous indiquerai l'agenda et le contenu de notre conseil municipal en fonction de l'appréciation de tout ça, effectivement. Voilà. Mais pour moi, le débat il ne se posera que lorsque l'on aura de la visibilité certifiée, claire, sur cet agenda. Voilà, fort, fort compliqué. Voilà. Je vous remercie. Bonne soirée. À très bientôt.